Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Benjamin.
Salut.
Bah écoute, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On est récemment déconfiné. Du coup, j'ai cru lire un petit peu dans la presse que tu avais du mal à tenir en place pendant ce confinement, que ça avait été assez dur pour toi. Là, c'est bon, ton énergie se libère un peu.
Oui, bah en plus il fait bon, on peut profiter du soleil. Après, bon, j'étais pas trop mal dans les conditions de mon confinement puisque du coup j'ai un tapis roulant, j'ai un home trainer connecté, donc j'étais bien dans mon garage, j'ai pu m'entraîner correctement. Donc après, c'était juste un peu les grands espaces qui me manquaient.
Ouais, je peux comprendre, ça me manque vraiment de voir un petit peu de verdure, la nature et des paysages sans fin. C'est sûr que c'était le plus dur finalement pour beaucoup de sportifs, en tout cas des sportifs outdoor. Donc en tout cas, c'est cool si t'avais du matériel. Bah écoute, comme je te le Comme je te le disais juste avant, la première question, c'est la tradition sur le podcast. C'est un petit peu de comprendre quel est ton premier souvenir de sport.
Moi, mon premier souvenir de sport, ça va être avec mon père. Ça va être mon père, en fait, parce qu'il était, il était coureur cycliste. Donc, en fait, moi, j'ai été bercé un peu avec le monde du vélo, à d'abord le suivre sur les courses, puis après, l'accompagner, lui, surtout en cyclocross, lui garder la paire de roues pour le change, tout ça. Donc, c'est vraiment, en fait, mes premiers souvenirs de sport, c'est surtout par rapport à mon père.
Ok, donc tu l'accompagnais, c'est toi qui faisais son assistant technique et tu l'accompagnais.
Après, j'ai un grand frère, donc le grand frère, lui, se chargeait du vélo. Donc, il fallait nettoyer à chaque tour. Il y avait deux vélos et à chaque fois, lui, on avait un. Et puis, fallait nettoyer parce que c'était les cyclocross souvent boueux. Et moi, j'avais une paire de roues en cas de crevaison sur le parcours. Il fallait être là pour qu'il puisse changer, quoi.
Ah, trop marrant. Et du coup, ça t'a donné un peu l'esprit de compétition ?
À cette époque-là, je dois dire que quand t'es jeune, ça m'a plutôt dégoûté un peu, surtout du vélo, parce que voilà, on est jeune, on est un peu débile. Et puis, il faisait froid l'hiver, donc, du coup, ça te motive pas trop. Tu te dis, ouais, je passerai pas tous mes dimanches à faire ça. Et puis, au fur et à mesure, tu te laisses prendre par le virus du sport.
Ouais. À quel âge t'as commencé à faire du vélo de manière sérieuse?
Moi, le vélo, j'ai commencé tard. J'ai toujours fait un peu de vélo parce que voilà, mon père a toujours voulu qu'on fasse un peu de vélo. Après, nous, c'était pas, avec mon frère, c'était pas trop notre envie. Mais moi, j'ai commencé, j'avais 8 ans, la course à pied. Donc, j'ai surtout commencé la course à pied. Ça a été plus tard le vélo.
Ok, d'accord. Et tu faisais de l'athlète, du coup, j'imagine?
Oui, voilà, à 8 ans, j'ai commencé la course à pied parce que j'étais asthmatique, donc c'était pour développer mes bronches et commencer à me soigner un petit peu. C'est le médecin qui avait préconisé ça.
Ok.
Et puis, au début, j'avais pas le droit de faire de compétition, puis après les entraînements, c'était un peu la garderie, quoi. J'avais pas cette passion encore. Puis tout doucement, c'est quand même arrivé. J'ai vu que sur le fond, j'étais pas mauvais, je prenais du plaisir. Donc, voilà, ça a fait son bonhomme de chemin. J'ai fait quelques coursettes par chez moi. Et puis, j'ai commencé à aimer ça, j'ai commencé à être devant. Donc après, forcément, ça fait effet boule de neige et on veut aller plus loin.
Ok, d'accord. Ouais. Et c'est à quel âge, du coup, que tu réalises ça, à peu près?
Je pense que mon plus gros déclic, il a été en minime 2. Donc, minime 2, je ne saurais même pas dire quel âge j'avais, mais par chez moi, il y avait une course qui s'appelait la Corrida des Cours. C'était le rendez-vous incontournable tous les ans. Donc sur la course élite, sur la course des As, il y avait les meilleurs Kenyans, les champions du monde de cross, il y avait Paul Terga, tout ça. Même une année quand j'ai gagné, c'est Paul Terga qui m'a remis la coupe. Donc ça faisait, quand t'es gamin, ça fait rêver un peu. Donc cette course-là, quand j'étais jeune, je l'ai gagnée de minime 2, ouais. Je l'ai gagnée 5 années de suite, en fait.
D'accord.
Et du coup, je pense que c'est là, en fait, sur une grosse course comme ça, de commencer à gagner, je me suis dit, j'aimerais bien un jour porter le maillot de l'équipe de France et tenter, voilà, à l'époque c'était qu'en course à pied, et voir jusqu'où je peux aller. Et puis en fait, une fois en junior, je l'ai eu, puis après tu te laisses prendre au jeu et tu continues.
Ouais, et du coup, tu as commencé sur quelle distance? Parce que je suis pas sûr d'avoir compris, c'est du 5000
En fait, quand tu es jeune, tu fais un peu tout.
Ouais, tu fais un peu tout.
Après,
ouais,
tu te diriges. Il y avait que le 1000 mètres, je crois, à partir de minime. Après, c'est monté à cadet au 3000. Et après, j'ai fait un peu de 1500 steeple. Après, à partir de junior, je suis passé sur 5000 et 3000 steeple. Ouais. Et à côté, je faisais de la course en montagne, qui était souvent à peu près à 10 km pour 1000, 1200 de D+.
Ok, d'accord. Ouais. Bon, et j'imagine que papa, derrière toi, il devait pousser un peu pour la compète, j'imagine.
Ouais, après, ils m'ont jamais trop poussé, mes parents. Ils étaient fiers, hein, que j'ai trouvé ce qui me plaisait. Mais après, si je voulais arrêter, je pouvais arrêter. C'est plutôt moi qui étais motivé. Après, du coup, ils m'ont très vite accompagné. Quand t'es jeune, de toute façon, si t'as pas tes parents derrière toi pour t'accompagner au compte, aux entraînements, pour te payer les équipements, tu peux pas aller très loin. Hein. C'est comme pour beaucoup de choses, comme pour les études. Ils étaient quand même fiers. Et puis moi, c'était ma fierté, c'est que quand j'étais jeune, dans le journal, on me dénommait sous le fait que j'étais le fils de mon père, en fait.
Ouais.
C'est plutôt lui qui avait un nom. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à inverser les choses. Et c'est plutôt lui qui est devenu mon père. Et ça, c'était ma petite fierté. Ouais.
Ok, ouais, c'est marrant ce que t'en parles parce que mais c'est un sujet que je voulais un peu aborder sur le podcast et justement c'est une bonne occasion. C'était pas dur pour toi au début en fait d'avoir un papa qui était assez, quand même assez connu dans le milieu, qui a remporté quand même quelques trophées quoi. C'est pas quelque chose qui mettait la pression ou c'était un truc que tu gardais pour toi et puis tu t'es dit un jour ça sera à mon tour.
Ouais, je sais pas si ça mettait vraiment la pression. Après, en plus, il y avait aussi il y avait mon grand-père qui était juge arbitre, je crois, en vélo. Il y avait son frère,
Ah ouais.
un des frères à mon père aussi, qui avait fait du vélo. Ils étaient plusieurs à avoir fait du vélo, donc le nom était assez connu, en tout cas dans la région. Donc oui, après ça peut mettre un peu la pression, mais c'était, ouais, j'ai plutôt pris ça comme un petit défi et puis essayer de faire un peu, de perpétuer le nom familial, ouais.
Ouais. Non, et puis bah après j'imagine quand même que ça aide d'avoir un peu quand même des parents qui ont fait un peu du haut niveau parce que comme tu l'as dit tout de suite ils peuvent s'impliquer, ils peuvent t'accompagner, ils savent mettre des choses en place en fait et ils le font avec bonne intelligence généralement et donc c'est super cool quoi que t'aies pu avoir accès à ça, j'imagine que
Ouais, bah c'est bien, et puis surtout j'ai pas connu un peu ce qu'on peut voir, ouais, sur les terrains de foot, les parents un peu trop présents qui forcent un peu les gamins ou qui sont insultants envers l'arbitre, tout ça. Enfin, moi c'était plutôt c'est toujours rester bon enfant, et c'est sûiement pour ça que j'ai continué et que je suis resté motivé. C'est parce que c'était pas une pression telle qui fait que j'aurais pu craquer, quoi.
Ouais, j'imagine. Mais en plus, ils ont bien fait. Enfin, ils ont bien fait parce que on va dire, t'as vraiment explosé sur le tard, quoi. Et je pense que ça aurait pu te dégoûter peut-être étant plus jeune.
Oui, puis après j'ai eu la chance d'être bien encadré dès le début dans un tout petit club de ma ville où l'entraîneur, voilà, qui était plutôt spécialiste lancer de marteau, qui faisait un peu aussi du demi-fond, mais voilà, qui était un peu plus de l'ancienne école, et du coup j'ai pas forcément de jusqu'à junior, je pense que j'en ai pas trop fait, et c'est ce qui m'a un peu permis d'éviter d'être en surentraînement et d'éviter les blessures.
Ouais, c'est clair que tous les sports un peu de fond, c'est comme ça qu'on voit pas mal d'athlètes un peu jeunes qui se grillent assez tôt. Et à côté de tout ça, l'école, comment c'était?
Bah ça allait très bien, hein. Du coup voilà, je brillais un peu sur les épreuves d'endurance, les épreuves d'athlé, tout ce qui était cross scolaire, bah je m'en sortais plutôt bien, hein, parce que j'ai souvent fait les
Ouais.
France, je les ai gagnés même une année, les France UNSS. Après voilà, moi j'avais plutôt vu ma carrière professionnelle, en fait je me voyais cuisinier, donc je suis parti dans une en hôtellerie, en fait, en école de cuisine.
Ok.
Et puis bon, l'ambiance, tout ça m'a pas trop plu, ça m'a un peu dégoûté. Donc en fait, le sport, ça commençait à plutôt bien marcher. Donc j'ai eu mon diplôme, mais après je me suis plutôt orienté dans une filière un peu sportive par la suite. Donc maintenant je suis maître nageur, même si c'est pas forcément ce qui me faisait rêver au début. Je trouve que c'est un premier pas, un premier pied dans le monde professionnel, et c'est assez intéressant parce qu'il y a de l'enseignement. Donc il y a un côté un peu social, c'est pas mal avec le public de dialoguer, donc ça me plaît assez. Peut-être que ça évoluera un peu par la suite, mais c'est au moins c'est un métier qui me permet de pouvoir continuer à m'entraîner correctement, et pour le moment c'est ça le plus important.
Ouais, c'est génial. Et puis bon, ça reste, tu restes quand même au contact de gens sportifs, donc tu vois, c'est quand même plutôt agréable. Et du coup, dans tout ça, à quel moment tu découvres un peu le duathlon? J'ai cru comprendre, si je dis pas de bêtises, que c'était il y a 8 ans, en 2012. C'est à peu près ça?
C'était même, alors je sais plus, c'était, chaque fois je me trompe, c'est 2010 ou 2011, je dirais que c'est
D'accord.
2010.
Ok.
2010, en fait, bon, en fait, au bout d'un moment, mon père avait un peu diminué le vélo, il s'est mis à la course à pied, il a fait des marathons, voilà, avec le groupe, un peu le groupe hors stade du petit club où j'étais. Et puis, à un moment donné, il s'est blessé, il pouvait plus trop courir, il a un peu mal au genou, tout ça, il s'était remis à faire un peu de vélo, mais du coup, c'était pas trop comme avant, enfin, il retournait faire du vélo avec ses groupes de copains, mais bon, du coup, comme il avait passé beaucoup de temps à faire presque que de la course, il avait plus du tout, enfin, c'était plus pareil. Donc, je m'étais dit, bah tiens, je vais m'acheter un vélo. J'ai jamais fait trop de sorties avec mon père, c'est peut-être l'occasion, et puis de faire des sorties en groupe avec lui, voilà, avec le reste du groupe. Donc, je me suis acheté un vélo. Ça s'est su, voilà, des gens qui faisaient du duathlon sur Metz l'ont su, et mon m'ont motivé à me tester sur une course open en fait à Nancy sur un duathlon. Donc je me suis plutôt pas trop mal sorti. Je dois faire septième de cette course-là. Donc pour
OK.
l'année d'après en fait, ils m'ont demandé d'intégrer leur équipe de duathlon pour le Grand Prix national. Et après voilà, là tout a commencé. Voilà, je me suis mis un peu plus à rouler, à faire des entraînements vélo et puis au bout d'un an, 2 ans, j'étais en équipe de France de duathlon.
Ah ouais, donc ouais, ça allait assez vite finalement à partir du moment où t'as mis un peu le pied sur une pédale, quoi.
Ouais, c'est ça. Bah, après, j'étais motivé parce que j'étais une brêle à vélo, hein, donc c'est ça qui me motivait encore plus, c'est de progresser à vélo. Et
Ouais.
puis surtout que mon père au début me faisait mal à vélo, donc le but aussi c'était, après le coup du journal, le but c'était aussi de pouvoir l'attaquer à vélo.
Ouais.
Donc ouais, c'est ce qui me plaît moi dans le sport, c'est de m'entraîner pour voir que je progresse et me faire plaisir. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre du plaisir à vélo. Et puis après en duathlon, bah forcément comme à pied, j'avais déjà un petit niveau, fallait juste serrer un peu les dents à vélo, et puis après on se faisait plaisir en course à pied.
Ok, d'accord. Ouais. Et à l'époque, tu démarres tout de suite sur la distance classique. Moi, alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai fait pas mal de triathlon longue distance essentiellement. Et alors, manque de culture, je m'étais jamais informé sur les distances en duathlon. Là, maintenant, je les connais. Mais est-ce que peut-être pour les auditeurs, tu peux un peu resituer la distance que toi que tu pratiques et s'il existe un petit peu d'autres distances un peu reines, tu vois, dans le triathlon, on parle beaucoup de la distance olympique et de la distance Ironman. Du coup, comment est-ce que ce paysage s'articule dans le duathlon?
Bon, en duathlon, c'est à peu près pareil. On est le petit frère du triathlon, voire le vilain petit canard du triathlon. Mais voilà, il y a des distances S et M aussi. Après, nous, généralement, les championnats, surtout à l'époque, maintenant ça évolue un petit peu, mais on était plutôt en distance M, sur les grands championnats du monde, et avant championnat d'Europe, on était sur une distance de 10 km à pied, 40 à vélo et 5 km à pied.
Ouais.
Et après la distance S, qui est maintenant notre distance un peu Grand Prix, et qui la distance ils ont tendance à nous mettre maintenant aussi sur le chemin d'Europe, c'est
D'accord.
5 km à pied, enfin c'est la moitié, c'est 5 km à pied, 20 km de vélo et 2,5 à pied. Donc c'est des formats un peu plus spectaculaires et plus rapides,
Ouais.
mais qui nivellent un peu le niveau, parce que voilà, c'est pas pareil de tenir 10 km à pied et après 40 à vélo. C'est quand même plus
Ouais.
intéressant. Puis voilà, ça nous fait des formats de sur les formats M, ça nous fait des formats de d'entre 1 heure à 1h50, 2 heures, alors qu'il y en a pour moins d'1 heure à faire un format S.
Ouais, donc si je comprends bien, vous avez pas les mêmes il commence à y avoir du changement entre le championnat du monde et le championnat d'Europe, c'est ça?
Ouais, c'est depuis 2 ans, ils ont baissé un peu les distances. Je sais pas vraiment pourquoi. C'est un peu dommage, mais bon. Après, c'est en fonction des organisateurs aussi. Des fois, il y en a certains qui peuvent remettre la distance classique. En tout cas, pour le moment, pour les mondes, on n'a jamais eu de distance en dessous. Et puis après, bon, après on a aussi le circuit Powerman. Nous, c'est plutôt du longue distance. Et là, les distances, la plupart du temps sur les Powerman, c'est 10, 60 et 10. Donc
OK.
10 km à pied, 60 à vélo et 10 à pied. À part le chemin du monde qui est Zofingen, qui est un peu notre Kona à nous pour les duathlètes. Et là,
OK.
les formats, ça va être 10 à pied, 150 à vélo et 30 à pied.
Ah ouais, d'accord. OK. Ouais, donc là, c'est un format qui est complètement différent puisque
Ah ouais, là, ça n'a rien à voir.
ouais, tu termines avec une grosse course de 30 bornes,
Et qui n'est pas
c'est pas évident.
forcément plat, toi, qui est assez dur, un peu type trail
OK.
sur du
OK. OK.
chemin. Donc, ouais.
Bah écoute, ouais, génial, génial. Je pense que ça, il y a beaucoup d'auditeurs qui pratiquent le triathlon parce que, bah, moi-même le pratiquant, j'avais un petit peu accès à cette communauté et donc c'est marrant que tu compares un petit peu au vilain petit canard parce que je trouve que tu fais partie des gens qui remettent le duathlon sur le devant de la scène et qui donnent vraiment à plein de triathlètes bah, d'essayer d'autres formats quoi. Et toi d'ailleurs, tu t'as pas trop essayé sur triathlon vu que tu es maître nageur. Est-ce que c'était un format qui t'a tenté, qui t'a donné envie ou qu'est-ce qui a fait que tu as préféré plutôt, enfin que tu as préféré le duathlon peut-être au tri et tout simplement à la course de fond?
Bah déjà, le premier point, à
Ouais.
la base, je suis un très mauvais nageur. Voilà, je suis devenu un peu maître nageur quand même sur un coup de tête, sur un pari. Je savais pas nager avant. Je savais juste nager la brasse mamie tête hors de l'eau. Donc,
Ouais.
je me suis présenté à deux mois avant les tests de sélection, à devoir nager bah, toutes mes grandes vacances juillet août pour bah, pour apprendre le crawl, le papillon, tout ça, parce que le test d'entrée c'était un 204 nages. Donc voilà, ça m'a pris tous les jours de me perfectionner. Et le problème c'est que voilà, j'ai commencé trop tard la natation, j'ai pas les automatismes et maintenant ouais, il faut, de toute façon il n'y a pas de secret hein, pour être dans les meilleurs mondiaux en triathlon, surtout au format olympique, faut nager, faut sortir en tête de l'eau, donc ça prend du temps de ouais. Voilà, de faut passer du temps dans l'eau et ce temps-là je l'ai pas parce que je suis pas professionnel hein, je travaille quand même à côté donc voilà après je pourrais m'en sortir sur longue distance je pense mais et encore là je suis pas sûr que je pourrais jouer forcément la tête de course ou alors ça se jouerait un peu sur la fin du marathon en Ironman ou sur un half peut-être sur le semi mais voilà faudrait que j'y croie jusqu'au bout et ça se trouve ça se jouerait sur le sprint final sur les 100 derniers mètres parce que j'aurais pris beaucoup de retard au début donc. Non, puis c'est pas voilà, je peux l'enseigner correctement. Après, ouais, il faudrait que je passe du temps dans l'eau pour prendre du plaisir. J'ai encore pas forcément trop de plaisir en natation. Je préfère déjà progresser à vélo et continuer à progresser en course à pied.
Ok, génial. Bah en tout cas, ouais, merci pour ta réponse éclairée. C'est vrai que tu fais bien de préciser que effectivement, pour jouer les premières places sur le tri, il faut vraiment avoir été un nageur très jeune parce que ça change. Ça change énormément de choses. Hein. C'est très difficile d'apprendre à bien nager sur le tard, je trouve. D'ailleurs, ça me fait penser qu'avec mon fils, je dois l'inscrire au bébé nageur pour la rentrée. mais en tant que nageur un peu, même plutôt médiocre, je dois dire, j'aimerais bien que mon fils nage très bien parce que je pense que c'est des aptitudes que tu développes à vie, quoi, en termes capacité cardiovasculaire et respiratoire. Je pense que c'est vraiment super. Et puis c'est pas très agressif hein, pour les enfants.
Non, bref, très jeune, c'est bien, c'est un sport porté. Et puis ouais. les enfants s'en sortent très bien en natation, ils apprennent vite les automatismes, parce que les adultes ont plus de mal à corriger sur des mauvaises manies, c'est beaucoup plus dur. Donc non, il vaut mieux commencer jeune. Et puis même certains triathlètes qui commencent tard vont le dire, comparé à d'autres qui ont commencé par la natation, bah eux vont devoir passer deux fois plus de temps dans l'eau et des fois en fait vont pas forcément gagner beaucoup plus quoi.
Ouais, exactement, ouais. Ça c'est clair. Mais du coup ouais, tu me fais une petite piqûre de rappel pour mon fils et en plus tu l'approuves donc c'est que j'ai eu bien raison de l'inscrire au bébé nageur. Mais bon, petit aparté, fini en 2015, j'ai l'impression que ça a été un peu une année charnière pour toi. Parce que, alors dis-moi si je me trompe, mais il me semble que tu as été champion de France de 5000 mètres et que tu es champion de France en duathlon aussi également.
Et même, j'ai été champion de France un petit peu avant de cross-court en 2015. J'ai eu trois titres de champion de France la même année.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec le recul, est-ce que t'as changé des choses, on va dire, les quelques années qu'il y a eu avant, est-ce que t'as changé des choses dans ton entraînement? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic?
Déjà, j'ai eu un changement d'entraîneur en course à pied quelques années avant, et puis surtout, il n'y a pas photo, hein, il y a eu, en fait, l'entraînement croisé avec le vélo. Parce qu'au début, quand j'ai commencé le duathlon, je faisais juste des sorties de groupe. Ouais. Et après, je me suis quand même intéressé aux capteurs de puissance, aux vrais entraînements. Donc là, j'ai pris un vrai coach vélo. Et forcément, j'ai progressé en vélo. Et quand j'ai progressé en vélo, parallèlement, j'ai progressé en course à pied. Donc ça a porté ses fruits en 2015. Après, je suis peut-être tombé aussi sur une année où j'ai eu les bonnes courses, où il manquait des gens. Mais voilà, comme j'avais eu un petit niveau qui était plutôt sympa, voilà, je m'en suis bien sorti. Hein. Ça a d'abord commencé donc l'hiver avec le titre de champion de France de cross-court. Après, ça a continué. Je crois que c'est d'abord j'ai dû faire champion de France de duathlon. Et puis après, ouais, l'été sur le 5000 au France Élite. Donc c'était plutôt une bonne année.
Ouais, c'est clair. Bah, ça te met un peu sur le devant de la scène. J'ai l'impression que ça t'a propulsé vraiment cette année-là. Tu parlais d'une évolution avec les capteurs de puissance. C'est comment ça se fait que tu sois arrivé un petit peu tard? C'était au début, peut-être tu voulais pas professionnaliser ton entraînement de vélo. Qu'est-ce que toi ça t'a appris en fait d'utiliser, d'avoir une approche un peu plus orientée sur la donnée et la technologie?
Enfin, déjà au départ, c'est parce que ça coûte un petit billet quand même, faut pas se le
Ouais,
cacher.
faut
Un
se le dire, ouais.
capteur de puissance, voilà, ça vaut un peu d'argent, surtout si on veut quelque chose de précis. Et puis après, moi, je suis plutôt un peu geek quand même, hein. J'aime bien tout ce qui est gadget et tout. Et ça, pour le coup, c'est pas un gadget, c'est vraiment utile en vélo. De toute
Ouais.
façon, y a pas de secret, hein. Si tout aujourd'hui sur le Tour de France, si tous les cyclistes l'ont, voilà, c'est pas pour rien. Hein. Si tous les cyclistes maintenant les meilleurs du monde s'entraînent à la puissance, c'est bien que ça fonctionne et ça permet d'être plus précis dans son entraînement et de mieux progresser. Donc voilà, moi je devais passer par là et c'est quelque chose, ouais, qui m'a vraiment appris. C'est pas les mêmes entraînements, c'est pas les mêmes efforts et ça m'a vraiment permis de progresser en vélo, quoi.
Ouais, du coup, ouais, ça te permet derrière de vraiment faire un travail beaucoup plus ciblé et beaucoup plus qualitatif, j'imagine. Tu fixais un petit peu en avance tes allures et tes watts, du coup.
Oui, c'est ça. Puis au moins, quand t'as une sortie récup, bah ça t'apprend aussi à pas faire le
Le
débile,
dopage, ouais.
et puis à respecter un peu les allures, parce que après voilà, faire des sorties de 3 heures à 30-32 de moyenne, bah tu te rends vite compte, ça sert à rien, et qu'il vaut mieux des fois faire à 1 heure et demie, voilà, à un certain watt. Ou si tu dois faire récup, bah voilà, tu fais 1 heure et demie, 2 heures, mais tu dépasses pas tant de watts et à peu près, voilà, qui est corrélé à peu près au cardio, et tu te rends compte que tu accumules moins de fatigue et que tu es plus performant sur les séances de la semaine. Et quand tu dois enchaîner sur d'autres choses, comme moi qui dois enchaîner course à pied et vélo, je peux pas mettre, à part en stage, hein, mais le même jour, je peux pas mettre de la qualité sur les deux activités, parce que forcément, il y en a une qui va en pâtir sur l'autre.
Ok. Et est-ce que tu as eu une approche similaire sur la course à pied, avec, je sais pas, peut-être en prenant ton pouls avec une montre et en essayant un petit peu d'ajuster ses efforts, tu l'as fait au même moment ou c'était déjà un réflexe que tu avais depuis longtemps?
Ça, pas forcément. Après, moi, j'ai toujours couru un peu à la sensation, et puis même avec les différents coachs que j'ai eu, on n'a jamais fait trop couru au cardio, parce que je trouve pas ça trop précis. Beaucoup le font, mais moi, j'aime pas spécialement. Après, par contre, maintenant, je fais plutôt. Ça fait plus d'un an maintenant que je fais des tests HRV en me levant le matin. Alors pas forcément tous les matins, mais en fait, on surveille en fait. C'est un petit test qui dure 13 minutes pour surveiller ses battements en fait et la différence entre les battements. Et du
D'accord,
coup,
ok.
comme ça me permet de savoir les périodes où je suis fatigué, où je suis bien. Donc c'est plutôt
Ok.
là-dessus où je vais voir ça par rapport à la récup. Après, non, moi, mes entraînements, c'est plutôt à l'allure que je les fais. Après, je vérifie quand même mon cardio, mais moi j'ai tendance à monter. Je peux monter très haut comme redescendre très bas. Je me fie pas forcément au cardio, je me fie quand même pas mal à la sensation.
Ouais.
Et puis ça se passe très bien comme ça.
Ok, d'accord. Ouais. Et suite à cette année, du coup, 2015, est-ce qu'il y a des choses qui se débloquent un peu pour toi? Est-ce que j'imagine, bah, tu vois, ça te met un peu sur le devant de la scène. Est-ce que en équipe de France, tu changes un petit peu de position parce que, bah, en plus, l'année suivante, il me semble que tu bats Benoît Nicolas, qui était le champion du monde en titre, et si je me trompe pas. Est-ce que du coup ça te fait un peu changer de posture et tu sens que t'es sur une rampe de lancement et que derrière derrière les tous les toutes les étapes vont suivre?
Bon, en athlé, ça va pas forcément changer grand-chose. Par contre,
Ouais.
je me dis qu'en duathlon, oui, il y a des choses à faire et que voilà, l'envie d'être champion du monde, elle est pas utopique et que c'est largement possible en s'entraînant correctement. Après, bon, je me suis cassé les dents quand même plusieurs fois sur ce championnat du monde, hein,
Ouais.
parce qu'au fur et à mesure, au fur et à mesure des années, bah, je progressais, mais du coup, j'avais toujours une pancarte de coureurs dans le dos, et les gars sur le vélo savaient très bien me le faire comprendre et tout faire pour me faire mal et me faire sauter. Donc ça a mis quand même un peu de temps, hein, et j'ai dû attendre 2019, hein, pour
Ouais.
être champion du monde. Donc voilà, faut toujours y croire, faut pas abandonner, mais ouais, c'est dur des fois de rester focus.
Ouais. Et toi, t'as rien essayé de changer ou de modifier un petit peu dans ton entraînement? Là, je pense à une interview que j'ai eue avec Vincent Defrane, qui doit être la numéro 6 ou numéro 7 que j'avais fait. Et lui me racontait en fait quoi ouais, qu'il avait été je crois, plus d'une dizaine de fois quatrième sur des circuits de Coupe du Monde et qu'il avait un vrai blocage psychologique et que, du coup, il s'était entouré d'une coach et que ça avait, en 2 ans, tout changé puisqu'il avait été champion olympique 2 ans après. Est-ce que toi, il y a eu justement des outils ou des routines que tu as mis en place un petit peu pour faire sauter un petit peu cette barrière-là et faire sauter un peu ce plafond de verre que tu pouvais avoir sur le vélo?
Non, parce que moi, en fait, j'ai pas trop besoin. Enfin, mentalement, je suis toujours assez fort. J'ai pas de soucis là-dessus. J'y ai toujours cru. Après, à chaque fois, ça se jouait vraiment à pas grand-chose pour que je puisse y arriver. Ou des fois, il y avait pas les conditions de course. Après, voilà, le problème, c'est qu'il fallait qu'à vélo, j'y passe du temps et il me fallait peut-être aussi du temps de récupération que j'avais pas parce que je travaillais encore. Je travaillais 35 heures. 35 heures par semaine, plus quand j'étais de week-end, on fait un week-end sur 3 à la piscine, donc je faisais des semaines à 43 heures quand j'étais de week-end, donc ça prend du temps de tout gérer, tout classer les entraînements, placer. Donc après, donc ça fait maintenant 2 ans, même 3 ans que j'ai la chance d'avoir un aménagement, donc en fait c'est surtout ça qui a fait que derrière j'ai pu encore progresser, c'est l'aménagement d'horaire et le fait d'être détaché un petit peu. Voilà, travailler 20 heures semaine, c'est toujours mieux que de travailler 35-40.
Ouais, c'est clair. C'est 15 heures qui sont précieuses.
Que je passe à l'entraînement ou que je passe à récupérer, ce que je faisais pas avant, quoi.
Ouais, c'est sûr que sans récupérer, c'est plus dur, tu m'étonnes. Et notamment, là, je regardais il y a pas longtemps un reportage sur les Kenyans et j'étais surpris de voir que en fait, certains dormaient jusqu'à 3 fois par jour, quoi. Ils faisaient 3 siestes. Ils se lèvent le matin, ils font leur entraînement du matin.
Ouais, nous, ça nous arrive aussi en stage triathlon avec le club. Généralement, on se lève à 6h, 6h, 6h15 pour être à 6h30 à la piscine à jeun. On va déjeuner à 9h. Souvent, on refait une petite sieste derrière parce qu'on est un peu fatigué. Et puis, ouais, la séance à pied, elle va être vers 10h, 11h. Et puis après, ça remange le midi, ça refait une petite sieste et puis ça enchaîne par la sortie vélo, quoi. Donc ouais, ça, je comprends très bien. Après, en vrai, quand on fait un stage que de course à pied, on a vraiment, comparé à un stage de triathlon, la course à pied, même quand on double tous les jours, on a beaucoup, beaucoup de temps libre.
Ouais.
Donc, ouais, on a du temps pour dormir si on veut dormir, on a du temps pour geeker si on veut geeker, on a vraiment du temps. Hein. Moi, j'ai déjà vu la différence entre des stages triathlon et des stages course à pied. Si on veut faire 3 siestes, on peut même en faire 4-5. Hein. On a du temps, on a vraiment beaucoup de temps entre deux séances de deux courses à pied.
Ouais, c'est clair. C'est comme tu fais qu'un sport, tu t'entraînes moins. Hein. Ça, c'est sûr que t'as beaucoup moins de. Tu passes beaucoup moins de temps sur le vélo ou sur la piste, donc forcément le temps de récup il est multiplié, quoi. Ça, c'est sûr que et je pense que ça joue aussi beaucoup à la différence sur les champions qui arrivent à être champions, un peu comme toi sur le long terme, quoi. Cette capacité à récupérer, je sais pas ce que t'en penses, mais. J'ai l'impression qu'on peut tous fournir, on n'est pas tous égaux, mais on peut tous fournir des efforts très intenses, mais derrière, la capacité de récupération, elle est pas la même chez tout le monde, j'ai l'impression.
C'est ça, ouais. Bah, récupération, puis aussi, pas forcément faire des excès, ou y en a certains qui veulent faire du haut niveau, mais qui veulent quand même faire la grosse stuff avec les copains, donc en fait, tu peux le faire une fois, deux fois, mais à un moment donné, tu te fais une blessure, deux blessures, puis après, tu peux plus revenir parce que t'as perdu la motivation, donc faut aussi une hygiène de vie qui soit presque à toute épreuve, mais faut quand même garder du plaisir, hein. On n'est pas non plus des moines, donc faut trouver le juste milieu pour qu'on continue à se faire plaisir dans notre sport.
Ouais, c'est clair. J'aurais bien aimé que tu me racontes un petit peu ta course justement de ces championnats du monde. C'était fin 2019, je sais plus le mois, peut-être septembre, c'est ça?
Oh, c'était avant les mondes, c'était avant les Europes, donc les mondes c'était avril, fin avril.
Ah, c'est avril, pardon, excuse-moi. Effectivement, j'étais en train de lire la mauvaise ligne sur ma petite fiche, mais et du coup, j'aimerais que tu racontes un petit peu cette course parce que j'ai l'impression que t'es parti comme une balle. Il y a une, en plus, il y a une super vidéo sur YouTube si jamais les gens veulent aller la regarder et voir ta victoire. Vous partez à deux avec un autre Français qui s'appelle Johan Lemaire.
Oui.
Ouais. Et vous partez très vite, vous vous détachez très vite. Vous avez quand même pas mal d'avance. Il se passe quand même pas mal de choses et tu vas mieux le raconter que moi. Et je voulais savoir déjà, est-ce que c'est une stratégie de course que t'avais prévue? Est-ce que c'est t'aimes bien préparer tes courses? Est-ce que c'était prévu de démarrer à fond et après bah, ça, se mettre un petit peu dans ta tête sur cette énorme perf et sur cette magnifique course que t'as faite?
En fait, on voilà les stratégies de course, on essaye toujours d'en faire la veille, que ça soit sur les championnats ou que ça soit sur les courses de Grand Prix national. Après, voilà, une stratégie, c'est bien sur le papier, mais souvent ça se passe pas comme ça le lendemain. Après, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la veille, on a un briefing qui est obligatoire. Et Johan, c'était un peu perdu et il arrive en retard au briefing. Et en fait, quand t'arrives en retard au briefing, bah, tu te prends une pénalité. Et du okay. coup, il savait qu'il avait une pénalité et que la pénalité, ah, bon, il allait la voir à T1. Donc T1, c'est la transition, en fait, course à pied vélo. Ouais. Donc, il savait que la pénalité était de 15 secondes, je crois. Donc, en fait, notre but, c'était de faire une grosse première à pied, bah, pour grappiller ces 15 secondes-là et partir à vélo. Voilà, si on avait pris 20 secondes, c'était bien. Comme ça, enfin, on était un petit groupe, on aurait été un petit groupe, on aurait été tous les deux avec peut-être une dizaine de gars et c'était très bien. Ça nous suffisait. Ouais. Sauf que je sais pas, Johan était très très chaud. Et sur les 4 premiers tours qu'on avait, donc pour faire 10 km, on avait 4 tours de 2,5. Le premier tour, il avait des jambes de feu et moi, j'ai pas pu passer une seule fois à ce moment-là. J'ai dû faire 2 bornes derrière lui. Il avait vraiment un gros, gros rythme. Donc, c'était plutôt impressionnant. Donc, deuxième tour, c'est moi qui fais le rythme. Du coup, bah, comme je l'avais gardé un peu en mémoire, j'ai gardé un peu le même rythme. Troisième tour, on a dû alterner un peu et tout. Et puis, dernier tour, après, il y avait une montée à chaque fois à faire chaque tour. Bon, là, il a commencé un peu à le payer, mais à un moment donné, je crois que sur le troisième tour, on avait une minute d'avance.
Donc, ah ouais.
Ouais, on s'était un peu enflammé. Donc, je crois que quand on prend le vélo, on doit avoir 45 ou 47 secondes d'avance.
Ouais.
Donc, ouais, on était plutôt serein. Donc, moi, je pars à vélo.
Tu sentais que vous étiez quand même un petit peu, bon, vous étiez pas dans le rouge, hein, parce qu'à la fin, tu gagnes, mais tu sentais que soit ça partait fort.
Ah, bah, je voyais qu'on allait faire un 10 bornes en moins de 30 minutes, mais après, moi, c'est plus des allures qui me font peur, donc ça me dérangeait pas plus que ça. Je me dis que on leur avait fait le coup l'année d'avant sur les chemins d'Europe où on avait tout fait, la course tous les deux, même le vélo, on avait fait les 40 bornes à deux. Donc je m'étais dit, bon, on se refait c'était à Ibiza, donc on se fait un Ibiza bis, et puis voilà, on fera un et deux, peut-être pas dans le même ordre, mais. Et ouais. Puis, bah, en fait, donc, comme il avait ses 15 secondes, moi, je pars à vélo. Il doit attendre 15 secondes. Il me récupère parce que j'ai pas roulé. Je jouais concours à deux.
Sauf, ouais,
sauf qu'on a peut-être trop, on avait peut-être trop appuyé à vélo. On fait un tour. On fait deux tours et on a laissé tomber au deuxième tour parce que derrière, il s'était trop organisé. Il revenait vraiment fort. Donc, voilà, on allait au suicide et on aurait perdu de l'énergie pour rien. Donc après, on a attendu les autres. Ils étaient un petit groupe d'une quinzaine, je crois. Donc voilà, ils reviennent sur nous. À la fin, il y a un Anglais, un Hollandais, je crois, qui arrive à partir, mais ils prennent rien. Ils doivent prendre 10 à 15 secondes. Donc voilà, je savais que c'était encore jouable. J'étais pas sûr. En tout cas, je savais que le podium était jouable. Et après, bon, j'ai débranché le cerveau quand j'ai posé le vélo et je suis parti en chasse tout de suite.
T'es combien à la fin à la T2?
Bon, en plus,
vous êtes en groupe, du coup.
Ouais, moi, je pose jamais, moi, j'aime pas poser forcément devant, donc je me pose toujours un peu derrière. Après, je fais une assez bonne transition pour partir vite. Je dois partir, j'étais sixième, je crois. Sixième. Après, je commence à doubler tout le monde. En plus, un des poursuivants, enfin, un des échappés, on le rattrape assez vite au bout de 400 mètres, donc il restait plus que l'Anglais devant. Et l'Anglais, je le récupère au bout d'un tour, donc après, je sais que je suis seul. Je suis seul vers la victoire, même si derrière ça courait quand même bien. Voilà, je savais à 2 km de l'arrivée, je savais que c'était bon et que je pouvais un peu profiter, même s'il fallait pas baisser les bras et garder le rythme quand même.
Ouais, bah j'ai été impressionné un peu en regardant encore cette vidéo presque de la façon.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Facilité, en fait, on a l'impression que t'as le tapis rouge et que là tu déroules toutes ces années d'entraînement qui payent et t'as l'impression que les planètes s'alignent et que derrière en fait ils peuvent pas suivre quoi.
Ouais, c'est ça. C'était mon jour, c'était le bon jour. J'étais comme j'ai pu le dire un peu, j'étais dans la zone. Du coup, ouais. plus rien pouvait m'arriver. Et puis c'est sûr qu'après il y a plein d'émotions qui arrivent. Toutes les fois où j'ai pas bien couru, où je me suis loupé, et puis aussi on avait perdu un des kinés de l'équipe de France quelques semaines avant, donc on était tous un peu tristes. Ils nous avaient accompagnés sur d'autres championnats du monde, donc il y a tout ça qui remonte, et du coup c'est quand on franchit la ligne, c'est vraiment un soulagement.
Ouais, tu penses à tout ça quand tu passes la ligne et à quoi tu penses d'ailleurs, quand tu passes la ligne, tu te dis ouf, qu'est-ce qui se passe? Tu sens que tu vas t'évanouir ou...
Bah, c'est vrai que ça jouait un peu sur la course. À l'arrivée, je pense tout de suite Jean-Romain, le kiné qui était décédé. Et puis après, à plein d'autres choses, j'ai eu pas mal de vagues d'émotions qui sont arrivées d'un coup. Je me suis dit enfin, ça y est, j'ai réussi. Et du coup, c'est vrai que ça fait bizarre. Tout le monde vient t'applaudir ou te féliciter, donc ça joue encore plus sur l'émotion, sachant que les Espagnols ils sont assez forts pour ça, il y a toujours beaucoup d'acclamations tout ça, donc c'était vraiment sympa.
Ok. Bon génial. En plus il y avait l'air d'avoir une bonne petite ambiance. Puis ils ont aussi quelques athlètes qui sont pas mauvais. Ils sont généralement sur les podiums, les Espagnols. Donc
le deuxième c'est un Espagnol, donc
exactement. Ouais.
Qui est un peu la star du duathlon par là-bas. Donc c'est Emilio Martin. Donc c'est sûr qu'ils étaient, étaient aussi fiers. Ils auraient préféré qu'il gagne, mais bon, du coup il a fait.
Ouais. Et la même, du coup, quelques mois plus tard, tu fais rebelote au championnat d'Europe, c'est ça?
C'est ça, on prend les mêmes et on recommence à peu près. Et puis, la course a quand même été très différente. Déjà, elle était sur un format plus court, donc sur 5, 20 et 2, 5. J'ai eu la chance. Du coup, Johan qui avait réussi à s'échapper à vélo, pas de bol, il a percé, il a crevé son pneu. Du coup, ça nous a laissé le champ libre. En plus, la course était un peu stratégique. Personne n'a vraiment voulu s'échapper à vélo. Enfin, on a vraiment, on a un peu roulé en facteur. Ça s'est regardé un peu tout ça. Et même pour l'anecdote, du coup, à un tour de poser, même pas le dernier tour de poser le vélo, justement, Benoît Nicolas, qui avait fait champion du monde, il vient me taper dans le dos en me félicitant pour ma future victoire. Et l'Espagnol, pareil, parce qu'ils se sont dit, de toute façon, là, personne fait quoi que ce soit. Quand on va poser le vélo, je vais partir à pied et puis je serai imprenable. Ça a été plus dur que ça, mais c'est vrai que dès qu'on a posé le vélo, je savais qu'il n'y avait que 2,5 km, donc malgré la chaleur, il fallait juste partir très très vite et tout donner pour aller au bout. Et j'ai eu la chance que les gens me répondaient bien, donc j'ai pu enchaîner les deux titres, champion du monde, champion d'Europe.
Ouais, là c'est en tout cas elle est belle et c'est assez marrant que tes adversaires viennent te faire une petite tape pour parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu quoi. En tout cas elle est belle celle-là. Mais c'était peut-être pas un, tu penses pas que c'était un coup d'intox un peu de leur part?
Ça aurait pu, surtout que moi je l'aurais dit surtout à Benoît, je dis attendez, la course elle est pas terminée, il peut se passer plein de choses encore. Moi aussi je peux percer, je peux tomber, ou je peux être fatigué. Vraiment se passer plein de choses, mais à ce moment donné je pense que c'est quand même, il pouvait plus se passer grand chose, donc il fallait juste être bien concentré, poser le vélo et puis partir.
Mais en tout cas on sent qu'il y a une, tu as souvent mentionné Johan et aussi Benoît, tu vois. Chez les filles, je crois que c'est Sandra Levenès aussi qui a été championne du monde la même année que toi, c'est ça?
Oui, Pontevedra. Ouais. Et puis elle
Ouais,
l'avait déjà
Pontevedra.
eu aussi, pareil, je crois, à Pontevedra, elle avait déjà été championne du monde. Donc,
Ouais. Et comment t'expliques qu'il y ait une génération qui soit aussi forte et que en fait on soit une nation on est une vraie nation du duathlon quoi. C'est maintenant c'est incontestable.
Après,
Donc
quand on
est-ce
parle de
que
Benoît et de Sandra, bon, c'est pas une génération aussi, ils sont un peu plus vieux que nous quand même, ils ont la quarantaine.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Et c'est juste que voilà, hein, ça reste les tauliers, hein, donc ils sont toujours aussi forts, donc il faut toujours s'en méfier. Après, voilà, c'est juste que nous, bon, on a la chance d'avoir une fédération qui joue quand même le jeu du duathlon. Voilà,
Ouais.
même si il y a forcément moins de moyens que dans le triathlon parce qu'on n'est pas le sport olympique, la Fédé met quand même les moyens et nous aide beaucoup. Et ça, d'ailleurs, je veux les remercier parce que bah, sans eux, voilà, on serait rien du tout. Et nous, en discutant avec les autres fédérations, certains viennent à leurs frais, payent leurs équipements. Donc, toutes les fédérations sont pas logées à la même enseigne. Donc, nous, on a plutôt de la chance en France d'être soutenus. Et du
Ouais.
coup, bah, grâce à ça, forcément, bah, ça nous permet de perfer. Hein. On est tombé sur les bons athlètes qui font que ça permet de faire des courses, souvent des courses d'équipe. Et derrière, voilà, ça paye.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, en tout cas, merci de les remercier parce que bah, j'ai pas toujours eu, enfin, tu vois, selon les sports, il n'y a pas toujours le même son de cloche sur les fédés et sur l'investissement finalement que mettent les fédérations dans les dans certains sports. Et en tout cas, bah voilà, c'est bien de féliciter quand le travail est bien fait, que les moyens sont là et que
Voudrait
derrière
toujours
le
qu'ils fassent
travail paye.
plus, mais ils sont quand même très présents et heureusement qu'ils sont là et que la fédération est là, sinon le
Ouais.
duathlon resterait un sport très mineur, donc on a quand même de la chance. En plus, on est souvent un peu sur la sellette parce que comme on est le sport olympique, on est quand même considéré sport de haut niveau, mais il suffit d'un rien pour que ça bascule, donc pour le moment
Ouais.
on est quand même privilégié.
Ok, trop cool. Et bah dis-moi si je me trompe, il me semble avoir vu une couverture de magazine mars 2020, donc juste avant le confinement, où tu es devant
Alistair
un
Brownlee.
des frères Bromley. Ouais, exactement. Et alors bon, pour les auditeurs qui ne le savent pas, il y a deux jumeaux hein, dans le triathlon, Alistair et l'autre, j'oublie toujours son nom.
Jonathan.
Jonathan, effectivement, merci de me corriger, qui sont un peu des légendes vivantes parce que c'est deux frères. Il y a eu des vidéos un petit peu où on voit à quel point ils s'entraident et c'est deux frères assez mythiques. Et toi, t'es devant eux du coup à
Et
ces championnats
surtout,
d'Europe.
Alistair est quand même double champion olympique de
Ouais,
triathlon. Donc,
c'est ça qu'il
Rio,
fallait dire.
Rio et Londres chez lui à la maison. Donc voilà, c'est juste le meilleur mondial. En tout cas, dernièrement, maintenant, on a Vincent Louis, voilà, qui est un peu le leader mondial actuellement. Mais ça reste des grosses références en triathlon, les frères Brownlee. Donc,
Ouais.
ça sera peut-être ma seule course de l'année, en tout cas en duathlon. Mais ouais, on a eu la chance que les Europes se fassent avant un peu tous les événements du coronavirus. Donc j'ai eu
Ouais,
la chance de
exactement.
conserver mon titre de champion d'Europe devant Alistair Brownlee. Après, bon, il y avait un Canadien qui s'était immiscé dans la course, donc il fait deuxième, mais il n'est pas classé comme le Canada est pas en Europe. Et deuxième, c'est quand même un Français, Krylan Le Bihan, qui est premier U23, donc qui est un peu l'avenir de
Ouais.
notre discipline. Donc on a fait vraiment une belle course et ça a mis beaucoup de projecteurs au duathlon parce que quand on a Tyler Michalchuk et Alistair Brownlee qui viennent sur un duathlon alors qu'ils sont parmi les meilleurs mondiaux en triathlon, bah c'est sûr que pour nous ça mettait un peu la pression.
Ouais. Mais d'ailleurs, ouais, je voulais te demander, c'était la première fois qu'il venait s'immiscer dans une de vos courses. Je l'ai pas
Alistair
vu.
et Tyler, oui, c'est la première fois. Une année, on a eu Richard Murray, qui est un des meilleurs coureurs du circuit mondial en triathlon, qui a gagné les mondes de duathlon. Après, il s'était blessé quelques mois auparavant, en fait, à la clavicule, donc il n'avait pas nagé. Donc, en
Ah,
fait,
ok.
il venait se tester, pour voir son niveau, et du coup, bon, bah, il nous avait fait du mal, hein. Donc, ouais, il avait gagné cette année-là, mais après, ça arrive assez souvent que quand c'est à la maison, chez eux, quand ça a été, au Danemark, on a eu aussi un triathlète, voilà, du circuit mondial, qui est venu et qui a gagné en plus au sprint devant Johan. Donc c'est pas tout le temps qu'ils viennent, mais bon voilà, sur certaines occasions ils viennent et voilà, on se fait
C'est trop
chambrer
bien
sur
que.
des triathlètes, donc on est quand même assez fiers quand un duathlète gagne un duathlon. Donc voilà, faut quand même remettre des fois l'église au milieu du village.
Ouais, t'as raison. C'est quand même, c'est sûr que ça doit être un peu rageant quand t'as quelqu'un qui pratique un autre sport finalement qui vient et qui sème un peu la pagaille sur une course. Donc, en tout cas, ouais, félicitations parce que se faire Alistair Brownlee, c'est quand même un gros poisson à se faire pour le plat de résistance, quoi. Donc et ouais, ça t'a pas toi perturbé en début de course? De te dire qu'un nom comme ça, je pense qu'il a dû, ça a dû un peu attirer la presse, il devait y avoir un petit peu plus de monde, j'en sais rien.
Mais est-ce que... la course était le samedi, on l'a appris, c'est ce que ça s'est fait très tard, comme leurs triathlons ont été très vite annulés, on a appris son inscription le jeudi. Okay. J'étais à l'hôtel à Orly, je crois, ou Roissy. J'étais à l'hôtel à Roissy avant de décoller. Moi, j'apprends ça, du coup, dans ma tête, je me dis, bon, bah, ça y est, je suis deuxième, c'est plié, mais bon, après, bon, je disais ça un peu en mode défaitiste, mais le but, c'était quand même de gagner et de le battre, donc après, mais je savais que ça allait faire quand même un beau coup de projecteur sur notre discipline, donc ça, c'était plutôt sympa, surtout quoi, ça a fait des beaux articles, des belles photos, et ça reste un excellent souvenir.
Ouais, c'est clair. Bon, c'est plutôt chouette en tout cas. Et bravo encore une fois pour cette petite perf. Moi, c'est un mec comme tu l'as dit, hein, c'est le grand champion. Et puis quand t'as moi pour le comme effectivement je faisais du tri et que je voyais toujours Vincent qui était derrière lui, ça me faisait hyper mal pour lui quoi, parce que il y a quelques spécialistes qui osent prétendre que si effectivement les frères Brownlee étaient un petit peu moins bons, peut-être que ça laisserait de la place à la super génération de Français qu'il y a aussi sur le triathlon. Mais bon, c'est des fantastiques champions, donc bravo pour la perf. Je voulais aborder un petit peu un sujet complètement différent, un peu du sport, parce que j'ai vu que tu avais deux passions. La première, c'était pour le tatouage, et la deuxième pour les mangas. Et alors, bon, il s'avère que moi aussi, je suis un peu tatoué. Les mangas, en revanche, pas du tout. Et je voulais savoir un petit peu d'où viennent ces passions-là, et peut-être si tu pouvais nous dire un petit peu la signification de tes tatouages.
Bah, en fait, il y a plutôt une passion qui découle de l'autre. En fait, c'est plutôt voilà, je suis passionné du Japon et des mangas, et du coup, bah, ça a découlé un peu sur le tatouage parce que bon, pour moi déjà les plus beaux tatouages c'est les tatouages japonais des yakuza, tout ça, enfin, moi c'est le style que j'adore.
OK.
Et puis voilà, il y a toute une culture qui va avec qui fait que même si je trouve assez sympa tout ce qui est maori tout ça, mais c'est vrai que je suis plutôt un peu traditionnel japonais. Et ben c'est surtout qu'en fait ouais en fait dans les mangas, alors surtout les mangas de sport, J'adore les mangas de sport et en fait, comme j'ai déjà pu le dire dans plusieurs interviews, on arrive vraiment à ressentir cette passion du sport. Souvent, le mangaka, le scénariste, ils arrivent vraiment à bien nous faire, en fait, nous faire ressentir ce qu'on ressent au quotidien dans une compète, à l'entraînement, en fait, toute cette passion. Alors que ça soit pour des sports complètement différents, hein, le basket, le football américain, le tennis. C'est vraiment génial, hein. C'est que moi souvent j'ai qu'une envie quand je regarde un manga de baseball, bah c'est de prendre une batte et de taper la balle. Quand je regarde un manga de basket, alors que je suis fin nul au basket, c'est de prendre un ballon et de faire des paniers. Donc ouais, ça vient surtout de ça. Et puis ouais, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que certaines nullités qu'on peut nous montrer à la télé. Donc ouais, que ça soit en anime ou en manga, j'adore lire aussi. Vraiment presque uniquement ouais, que du manga, pas trop comics, plus vraiment l'univers japonais. Et comme okay. Bah, dans cet univers-là, souvent, bah, y a des personnages qui sont tatoués, où ça va un peu de pair, tout ça, et où ça va de pair avec la culture japonaise. Et ouais. Du coup, oui, donc un de mes tatouages sur le torse, là, qui remonte un peu dans le cou, bah, ça vient d'un manga, ça vient de Dragon Quest, donc en France, c'était Fly. Du coup, c'est son symbole à lui. Et puis sinon c'est plutôt voilà sur mes articulations, donc les deux coudes et les deux genoux, c'est des soleils avec à l'intérieur un kanji japonais qui symbolise chacun un élément, donc l'eau, le feu, la terre, l'air. Et c'est vrai que ça fait des années que je me dis que je vais faire les bras en manchette japonaise, ou en tout cas en assimiler manchette japonaise, Pour le moment, j'ai toujours un peu retardé l'échéance. En plus, en bossant la piscine, c'est un peu compliqué. Mais, ouais. Mais c'est dans l'idée. Après, il faut que je finalise un peu les dessins, l'envie, mais ça se fera certainement.
C'est toi qui les dessines à chaque fois ou
pas complètement. Dire... Après, je décalque beaucoup. Je prends l'inspiration, mais.
Ok.
Mais oui, j'essaie quand même que c'est une signification pour moi et que ça devienne, ça soit du perso, quoi.
Ok, d'accord, génial, génial. Et parmi tous les mangas que t'as lus, moi je connais pas du tout cet univers. Si tu devais me recommander un ou deux mangas qui retranscrivent vraiment l'univers du sport et la passion pour le sport, ça serait lesquels que tu me recommanderais en priorité?
Oh, y en a tellement. Après, à la base, mon manga culte, ça reste quand même l'univers des Chevaliers du Zodiac, qui est pour le coup pas un manga de sport. Mais dans les basiques, par exemple pour le basket, un ancien manga qui est Slam Dunk, qui est vraiment génialissime parce qu'il mélange un peu des loubars, tout ça, mais aussi avec cette passion du basket. Et sinon, de toute façon, c'était cultissime. Enfin, Olive et Tom, Captain Tsubasa, du coup, c'était vraiment le football, c'était cultissime et ça, il y avait une réelle passion. Après, maintenant, il y a des choses plus récentes qui sont tout aussi bien. En ce moment, il y a IQ qui est sur le volet et qui est vraiment très bien. Et alors que le volet, on a eu plutôt Jeanne et Serge et d'autres choses comme ça qui sont bien aussi. Hein, mais là, ça reste un peu plus masculin et du coup, ça donne vraiment envie parce qu'on trouve souvent que le volet c'est un peu féminin. Et là, ça donne vraiment envie pour un garçon en tout cas de se mettre au volet et de trouver que c'est et pour avoir eu la chance d'avoir donné un coup d'envoi. D'un match de volley ici sur Nancy, j'ai été beaucoup plus impressionné de voir une équipe de volley jouer en fait qu'une équipe de basket.
Ok.
Donc okay. Non, plutôt des mangas intéressants. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a pas sur le triathlon ni la course à pied. Il y a des mangas de vélo. Il y en a deux surtout. Il y en a un qui s'appelle Yowamushi Pedal, qui est assez drôle et qui est vraiment très bien fait. Et j'ai l'impression des fois de me revoir justement dans une bosse. C'est pour ça que je pense à ça.
Ok. Bah écoute, je retiens tous les noms là. J'ai noté Slam Dunk, Wowchi Pedal. Ça peut être hyper cool. En tout cas, merci pour ces petites recommandations parce que je t'avoue que c'est un univers que je connais pas et je voulais comprendre en fait tout simplement un peu le lien et les passerelles que t'en faisais avec le sport avec tes mots ça découle.
Ça va vite aussi, c'est que je suis né en 86, donc je fais partie de la génération un peu Club Dorothée. Et forcément, on a été élevé avec des choses comme ça, Ken le Survivant, Chevalier du Zodiac, Dragon Ball Z, et après, on se laisse. Après, ça a découlé sur d'autres univers, mais c'est vrai que j'ai très vite eu cette passion du manga plus que sur d'autres dessins animés.
Ouais, ok. Bon, bah, on attend avec impatience tes manchettes, en tout cas, et pour voir si tu feras des références à des mangas et auxquels, en tout cas. Donc voilà quoi. C'est plutôt cool. Mais du coup, comme tu l'as évoqué, c'est parti d'une passion pour le Japon. Et on est obligé un petit peu d'en parler de ce qui se passe cette année parce que toi t'as eu ta qualification pour les Jeux sur 5000 mètres, c'est ça?
Non, sur marathon.
Ah, sur marathon. Pardon, excuse-moi. Bah écoute, tu vois, j'avais mal eu l'info. Donc ça montre à quel point t'es un sportif complet et à quel point t'es passionné quand même par les sports un peu de fond. Comment est-ce que t'as vécu un petit peu tout ce décalage? Parce que j'imagine que quand tu gagnes en Espagne là le 7 mars. Bon, on est à 10 jours du confinement en France. Tu t'attends pas du tout à ça, j'imagine, et tu penses au jeu. Comment est-ce que toi tu l'as vécu du coup ce décalage des jeux et comment est-ce que tu vas réorganiser un petit peu ta saison prochaine?
Après en plus il y a pas mal de choses qui se sont décalées après.
Ouais,
j'ai fait ma qualification sur le marathon de Valence donc au mois de décembre. Donc après, les sélections étaient arrêtées au mois de février-mars. Après, on est tombé sur une année où j'ai la malchance, entre guillemets, on est quatre à avoir fait les minima pour trois places. Sachant que c'est moi qui ai le moins bon temps. Donc pour le moment, j'étais, entre guillemets, qualifié, oui, mais j'étais qualifié en tant que remplaçant. J'étais plutôt dans l'attente d'une blessure ou autre, pour gagner ma place. Donc là, ça me laisse en fait un an de plus pour peut-être, après on attend parce qu'on sait pas trop en fait ce que la fédération décidera ou même le CIO. Je sais pas si je peux recourir et faire mieux et peut-être récupérer la place ou je reste que remplaçant et il faudra peut-être que j'attende, on sait jamais, une blessure, voilà, ça peut arriver. Ou...
Ouais. Et t'as le droit de retenter une qualif, enfin c'est-à-dire de t'as le droit de refaire un marathon pour aller chercher un temps.
On pourrait après on n'a pas eu les infos encore de la Fédé, sachant que le Comité Olympique International pour le moment en fait a bloqué tous les chronos au moins jusqu'à décembre. Donc à partir de décembre on peut recourir pour aller chercher les minima olympiques.
D'accord.
Donc voilà, on va voir après tout doucement je décide mon calendrier parce que sachant que voilà les mondes de duathlon qui devaient se dérouler en septembre ont été annulés cette année, sont reportés l'année prochaine.
Donc,
et voilà, tout le calendrier se décale un peu, se remet en place, donc c'est un peu contraignant. Là, on voit pas trop loin. Voilà, faut voir un peu plus loin et bien réfléchir à comment je vais pouvoir orienter ma saison future.
Ouais. Et tu sais pas, tu t'as pas encore prévu, toi. Est-ce que tu vas te mettre à fond à faire? Est-ce que tu vas faire une pause un peu sur le triathlon parce que imaginons, enfin, si une bonne nouvelle t'arrivait, est-ce que tu mettrais peut-être un petit peu de côté du coup le vélo et est-ce que tu essaierais de te concentrer là-dessus?
Bah, ce que je fais souvent, moi, enfin, j'ai eu la chance surtout l'année dernière quand je préparais le marathon, c'est que tout mon début de saison était consacré au duathlon et toute la fin de saison de l'année 2019 était consacrée à la qualif et au marathon. Donc au début, j'ai couru en septembre au marathon de Berlin où j'ai eu une petite défaillance, donc je l'ai quand même terminé, mais pas dans le chrono espéré. Il a fallu que je me remotive et 2 mois après, voilà, j'ai couru le marathon de Valence où là, je réalise mon chrono avec les minima en 2h11, donc c'était plutôt voilà une belle course et une belle expérience. Donc après c'est quand même dur hein, la prépa marathon, tout ça, faut bien la programmer. Donc pendant ce temps-là, c'est vrai qu'à cette période-là, je faisais un peu moins de vélo ou un peu qu'en récup, je faisais moins d'entraînement. Donc après, faut pas que les deux saisons se mélangent avec les mondes, parce que le but quand même, j'aurais bien voulu cette année, j'ai gagné les Europes, j'aurais bien voulu conserver, voilà, faire le 2 années de suite le doublé. Donc cette année, voilà, un peu sur tapis vert, je le fais, mais c'était pas ça. Voilà, moi je voulais conserver mon titre mondial, donc va falloir le faire l'année prochaine. Donc on va voir. Comment ça se goupille.
Ok, bon, bah, en tout cas, on croise les doigts pour toi parce que franchement, tu le mérites et puis t'as tellement, enfin, des super valeurs et je pense que, en tout cas, ça peut que payer sur le long terme. Merci. Donc, je croise les doigts vraiment pour toi. Et aussi, je change encore un petit peu de sujet, mais j'étais assez surpris de voir que tu étais très actif sur Strava. Et pourquoi j'ai été surpris? Alors, effectivement, pour un cycliste ou quelqu'un qui fait de la course à pied, être sur Strava, on va dire, c'est assez commun, mais c'est assez rare, dis-moi si je me trompe, pour les sportifs de haut niveau. J'ai vu très très peu de sportifs de haut niveau qui étaient dessus, et je voulais savoir un peu, toi, quelle était ta démarche? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que c'était pour tu te servais vraiment de l'outil pour traquer tes entraînements, ou est-ce que c'était peut-être pour faire de l'intox sur tes concurrents? c'est quoi la démarche derrière?
Ça se fait de plus en plus maintenant, il y en a beaucoup quand même maintenant qui sont sur Strava, que ça soit les coureurs du Tour de France ou d'ailleurs ils nous font mal
ouais, c'est vrai que
mais je trouve que Strava en fait c'est un peu le réseau social du sportif, c'est plutôt sympa. Voilà, moi je m'en sers pour des fois, voilà, c'est plutôt sympa d'aller chambrer les copains et de leur prendre l'enseignement mais après moi je m'en sers aussi quand je suis en déplacement autre part pour voir un peu où courir, découvrir un peu des endroits. C'est vrai qu'il suffit de regarder un segment, enfin on regarde le nom, tout ça, tiens il y a des escaliers ou là il y a un tour de parc plutôt sympa, tiens je vais aller courir là. Et c'est vrai que je m'en sers là-dessus plus comme ça, et puis aussi pour faire partager aux gens voilà mes différents entraînements. Du coup après moi je mets pas tout sur Strava, en tout cas pas tout en visible sur Strava, mais je mets quelques séances clés, tout ça, où c'est vrai qu'on aime bien, on est plusieurs à faire ça en fait, on fait un peu de l'intox genre avant les gros championnats. Il y a une période où on va plus rien mettre et du coup ça va mettre le doute aux adversaires, parce que je me suis aperçu que beaucoup de gens beaucoup de gens guettaient quand même Strava et que ça soit aussi les médias étrangers, hein. J'ai des médias espagnols qui regardent souvent mes séances, donc c'est assez drôle de se rendre compte de ça. Après, moi, c'est plutôt mon cahier d'entraînement, il est plutôt sur Garmin, mais j'ai tendance à partager, ouais, pas mal de choses, quand même la plupart des choses sur Strava.
Ok, d'accord, ouais. Bon, je sais que beaucoup d'auditeurs te permettront, du coup, de te suivre et de voir un petit peu ce que ça donne. Ça pourra, je sais qu'en plus, ça fait toujours plaisir aux sportifs d'avoir un petit coucou des auditeurs. Donc, ok, très cool. On se retrouve sur Strava. Mais écoute, juste avant de terminer un petit peu l'interview, j'ai des questions un peu qui sont suggérées par les auditeurs. C'est des questions un peu fun. Ça te dit de te prêter au jeu?
Ouais, pas de souci.
Allez. La première, c'est de savoir est-ce que tu avais une idole quand tu étais plus jeune?
Non, c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. J'ai jamais eu vraiment de sportif ou de personnalité que j'idolâtrais. Non, en plus généralement ouais, quand j'étais jeune, j'étais pas trop. Enfin, j'aimais faire du sport, mais j'aimais pas forcément le regarder à la télé, tout ça. C'était pas mon kiff.
Ouais. Ok, d'accord. Donc ouais, pas spécialement de sportif qui t'inspirait voilà, ouais. Ou de rôle modèle. Ouais.
Inspiré okay. Plus voilà de personnages de manga que de personnages de la vie réelle.
Ok, ça marche. Comment est-ce que tu fais pour libérer la pression et comment est-ce que tu fais pour t'évader un peu quand t'es un peu stressé?
Bah justement, moi j'ai jamais trop la pression, en fait, jamais trop de stress. Ça m'arrivait quand j'étais jeune, justement, je me rognais les ongles ou je me mangeais les peaux des doigts. C'est okay. C'est comme ça que je. Mais en fait, j'ai arrêté. Et maintenant, c'est vraiment, il y a plus grand chose qui me stresse. Je prends tout un peu avec philosophie. Je me dis qu'à chaque fois, en fait, je joue pas ma vie et que c'est. Et même quand c'est un championnat du monde ou une course au jambon du coin, bah pour moi, c'est exactement la même chose. Et que voilà. Ouais. Après, j'ai tendance des fois peut-être. Peut-être un peu avec de l'humour, tout ça, avec des blagues, ça va me permettre de décompresser. Et voilà, ou écouter quelques morceaux de musique, ça peut être sympa pour décompresser. Je me mets un peu dans une bulle, mais non, généralement maintenant je stresse plus trop, quoi. Je prends tout comme ça vient.
Ok, ça marche. Et du coup, ouais, t'as mentionné le fait que tu écoutais de la musique. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta playlist?
Bon bah moi ça va être beaucoup. Moi ma playlist elle est très métal, quoi.
Ok, métal japonais ou... du coup ou pas?
Rock. J'en écoute, ouais. J'ai grâce au en fait beaucoup de génériques de mangas japonais en fait sont issus de la J-pop ou de la J-rock. Donc j'en écoute un peu, mais sinon ouais, après ouais plutôt rock et métal et puis un peu de reggae aussi.
Ok, d'accord. Ouais. Mais écoute, moi j'ai découvert récemment du métal mongol grâce à un.
Ah oui, c'est ça. Avec la. J'ai déjà entendu.
Ouais.
Avec le raclement de gorge, je sais plus comment ça s'appelle, là, le chant diphonique, quoi. Ils font du métal en chant diphonique et c'est vraiment pas mal, j'ai déjà entendu.
Ouais, exactement. Ouais. Ben, je connaissais pas du tout et là il y a quelques semaines, une personne de mon équipe m'a fait écouter et ça m'a fait, ça m'a replongé en enfance. Donc j'étais assez surpris. Et il est en train de faire un film dessus, donc c'est plutôt chouette. Donc, ok. Si tu connais, j'ai rien à t'apprendre. Mais pour rebondir, il y a les sportifs sont toujours, enfin les auditeurs sont. Très curieux de savoir, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau?
Bah moi j'ai toujours été un peu sport fun, sport extrême, donc je pense que ouais, quand j'étais ado je faisais du skate, je pense que ouais, un sport comme ça, un sport de ride, j'aurais beaucoup aimé, ouais, skateboard ou peut-être même surf, un peu voilà, cette liberté et en mode un peu ouais, en mode free, j'aurais bien aimé okay. Un peu comme dans le film Point Break à la Buddy, quoi, où on attend dans sa vague et on est un peu ouais, on est un peu en marge de la société, ouais. Je trouve ça plutôt sympa, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est les surfeurs ont des personnalités un peu atypiques et des vies un peu différentes, mais pour le coup c'est pas la routine et c'est pas la, on va dire, la régularité et l'effort qu'il y a dans le duathlon, hein. Je pense ouais. Que c'est pas tout à fait pareil. Est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné?
Non, je sais même pas si ouais, moi déjà de donner beaucoup de conseils, mais non, je sais, il y en a jamais un qui m'a marqué, tu vois. Ça, si je prenais une phrase comme ça, tu vois, ça viendrait plutôt d'une phrase, bah pareil, qui vient d'un manga Et en fait, il disait, ne te fais pas d'illusions, Dieu ne réalisera pas tes rêves. Et je pense que c'est plutôt ça un peu ma ligne de conduite, c'est qu'en fait, faut plutôt croire en soi et avoir confiance en soi pour y arriver.
Ok, ok. Elle est pas mal, je la note, franchement, ne te fais pas d'illusions, Dieu ne réalisera pas tes rêves. Ok, mais ok, très, très sympa, t'es croyant du coup?
Non, en plus pas du tout, non, non, non.
Non, mais ok, bon ça, mais du coup ça prend une autre connotation, mais c'est encore plus inspirant, je trouve. Et t'as pas de gris-gris, je sais pas, ou de porte-bonheur avant une course?
Non, non, c'est vrai que j'ai rien de tout ça. Non, je mets pas le même vieux slip troué ou les mêmes. Non, j'ai vraiment rien, non. Pas okay. De slip, pas de toc, j'ai plus trop tout ça, non.
Ok, ça marche, ça roule. Et c'est quoi une bonne journée pour toi? Une journée où à la fin de la journée, tu t'endors et tu te dis, waouh, aujourd'hui c'était vraiment cool.
Oh, je sais pas, une bonne journée de stage ou une bonne journée où ça va être, voilà, il va faire beau, moi comme aujourd'hui là, on fait le matin, on part sur une sortie vélo avec les copains, et puis voilà, et puis on peut se retrouver le midi tous ensemble autour d'un barbecue. Et ça, c'est plutôt sympa, ou au bord de l'eau, et puis on va nager un peu. Je trouve que c'est le genre de journée plutôt cool, quoi.
Ok. Tu te vois où dans 10 ans?
Bonne question, dans 10 ans.
Tu sais quoi, avant de te poser la question, je me suis dit, il va pas savoir répondre, il va se laisser.
Et je me la suis notée, j'ai réfléchi, et même là, je pense que je serai toujours. Enfin, toujours dans le sport, peut-être un peu moins, parce que je pense que d'ici 10 ans, j'espère que j'aurai un ou des enfants, et voilà, peut-être que j'aurai diminué le haut niveau, mais que je resterai toujours sportif et je me ferai plaisir, ouais, sur les sorties vélo, sur les footings. J'essaierai de conserver mes couronnes sur Strava.
Ok, ça marche. la dernière petite question, c'est de savoir si tu pouvais revenir une vingtaine d'années en arrière et aller voir le jeune Benjamin qui est avant de faire sa première course sur les minimes, et que si tu pouvais te glisser un petit mot dans l'oreille à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dirais?
Bah, je pense que je me dirais, ouais, crois en toi, fonce. Te pose pas de questions, vas-y, parce que des fois j'ai beaucoup hésité, même à une certaine époque j'aurais pu faire mes études à l'étranger et j'ai pas été parce que voilà, peut-être que j'avais un peu peur du changement, en fait c'est peut-être le seul regret que j'aurais peut-être dû tester un peu voir un autre fonctionnement.
Ouais, bon, t'as encore le temps, t'en fais pas. On n'est pas encore dans un monde confiné ad vitam aeternam, je te rassure.
Ouais, bon, maintenant on a voilà, j'ai 34 ans, je suis parti dans une certaine routine où ça devient compliqué de faire autre chose, quoi.
Ouais, ça, je peux comprendre. Écoute, merci beaucoup Benjamin pour clôturer un peu les interviews, c'est la tradition, c'est le passage de micro. Quels sont les, enfin, est-ce qu'il y a un sportif que tu connais que tu me recommandes d'aller interviewer?
Pareil, j'y avais réfléchi, j'avais pensé à deux trois trucs, mais je sais pas, t'es plutôt sur du français, sur de l'étranger ou...
Bah, je, écoute, moi, ça me dérange pas du tout d'avoir des invités anglophones, et même, tu vois, je suis en train de me mettre à l'espagnol, donc même hispanique, mais je pense quand même que pour les auditeurs, ouais. S'ils sont francophones, c'est quand même plus agréable.
Plus simple sur du francophone. Non, mais ouais, tu vois, maintenant que je suis plutôt marathonien, non, mais que je fais aussi du marathon, ouais, peut-être aller interviewer quelqu'un qui est sur le marathon et voilà, qui perce après chez les Français. Bah, tu vois, on est trois à avoir fait les minimes olympiques, donc Sanchadi ou Nicolas Navarro ou même Morad Hamdouni, tu vois, quelque chose. Je sais pas si t'as déjà eu des marathoniens dans.
Bah écoute, toujours pas, donc il faut que j'y travaille.
Ou quelqu'un qui a pas mal fait de marathon, ouais, il y a Benjamin Malati qui est,
ouais,
qui est pas mal, qui est assez intéressant, qui a souvent été bon sur ses marathons et qui s'est très vite mis sur marathon.
Ouais. Ok.
Je pense qu'il a assez de recul, Benjamin.
Ok, Trop cool. Bah écoute, je me note ces noms. Si ça avait été un étranger, ça aurait été qui? Par curiosité.
Oh, pour le défi, un petit Armstrong.
Allez, ouais, carrément.
En ce moment, il est bien sur les interviews, il aime bien dans les interviews, là, un peu.
Ouais, grave. En plus, maintenant, ça va. Et maintenant qu'il a moins la pression, je le trouve plus spontané et plus
Ouais,
cash.
maintenant il balance un peu plus, ouais, il se dit, oh, bon,
Ouais.
allez, on peut tout.
Ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bah, si j'ai Lance Armstrong, ça serait un peu le Graal du podcast. Je pense que ça serait vraiment génial parce que je pense que c'est quand même un type qui doit avoir de sacrées histoires à raconter. Donc, vu tout ce qu'il a traversé, effectivement, il y a de quoi lui demander des choses. Bah, écoute, merci beaucoup, Benjamin. C'était un énorme plaisir. De pouvoir faire cette interview, j'ai passé un super moment avec toi. J'espère que c'était un plaisir partagé. Et écoute, bah comment est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on dit aux auditeurs de venir te suivre?
Bon, comme on a pu le dire là sur Strava, donc sur Strava, je m'appelle Benjamin Choquer, donc ça c'est pas trop dur à trouver. Sinon, ouais, je suis sur Facebook et Instagram. Ouais. Maintenant, j'ai tendance plus à privilégier Instagram, même si je suis toujours les deux sont reliés et je me sers quand même des deux pour balancer des infos, mais beaucoup, ouais, c'est vrai que beaucoup Instagram, sur Instagram, ça doit être Ben Choco 54.
Ok, ça marche. Benchoco54. On voit le pseudo qui a été choisi il y a plusieurs années et que tu as gardé depuis.
Oh non, oh, même pas, non, 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 c'est juste
Même
que,
pas?
je sais pas, je voulais pas mettre Benjamin Choker, je crois, et puis maintenant mon surnom un peu dans le sport, c'est Choco, donc voilà, c'est resté.
Ok, ça marche, Choco. Bah écoute, bah voilà, merci à tous en tout cas d'avoir écouté jusqu'ici. Allez suivre vraiment Benjamin pour suivre bah, ses prochains exploits, voir un petit peu ses temps sur Strava si vous voulez aller le titiller et toujours lui envoyer un petit message en lui disant que vous avez écouté le podcast, ça fait toujours plaisir. Et ben écoute, merci beaucoup Benjamin. À une prochaine.
Merci à toi, à bientôt.
Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.